Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI pour vous parler de football, bien entendu. Et vous parler, allez, on va en reparler, de Lionel Messi qui rentre dans le rang après des déclarations très amères. Le capitaine des Blaugrana a repris l'entraînement. Quelles traces laisseront son faux départ et ses propos à l'encontre du vestiaire et des dirigeants? À quoi ressemblera surtout l'équipe de Koeman avec Messi la saison prochaine? François David nous donnera quelques pistes. Qui perd? Qui gagne? Une squadra azzurra offensive et victorieuse. Les Italiens ont battu des Néerlandais orphelins de Ronald Koeman hier à Amsterdam. Une victoire qui redonne de l'élan à la formation de Roberto Mancini. Une sélection anglaise sans cœur pour les erreurs de jeunesse de deux de ses jeunes pousses. Et une équipe de blues qui se renforce. Chelsea veut désormais se battre pour le titre de Premier League en annonçant la couleur avant le coup d'envoi du championnat. Et pour participer au débat du jour, Marc Libra est là. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Sur la
Vous nous revenez
oui,
tout auréolé de votre sud.
Exactement. Tout bronzé, exactement.
On a Franck Simon qui est là.
Non. Mais pas tout nu. Bonjour Annie.
On en témoigne. Bonjour à tous. Bayez abafana bankani wema.
Bayez abafana bankani. C'est moi.
Oui,
c'est ouais. C'est de Lissi Zoulou.
C'était pendant le confinement, vous étiez un peu inspiré.
Les Amandes Pirates.
Exact. Voilà la chanson qui vous symbolise, vous.
Oui,
c'est un choix
c'est
de David Finzel et Laurent Salerno. Hein. Ah. C'est pas à moi qu'il faut demander, là. Les boucaniers d'Afrique du Sud. Et puis Bruno Constant, bonjour Bruno.
Bonjour Annie. Bonjour.
Alors vous, je sais pas à quoi vous allez avoir droit.
Bah, oui, bien
sûr. London Calling.
Ouais. Ah, j'espère.
Évidemment.
À quelques jours de la reprise du championnat d'Angleterre. J'espère.
Exactement. Et ça sera d'ailleurs un des sujets de cette émission. Donc London vous appelle,
voilà.
Nous aussi.
L'hymne.
Et on en parlera. Tout le monde est là. Radio Foot, c'est parti.
Allez, là il va y avoir du suspense.
Là il va y avoir de l'ambiance.
Est-ce que Messi reste?
Décision
de Lionel.
Eh bien je reste.
Voilà, question Bora, champion, bonne soirée à tous et à demain.
Messi reste figure de proue de la campagne publicitaire toute neuve hein, pour le maillot rose du Barça, le maillot numéro 3 de la saison. Lionel Messi est donc réapparu hier au centre d'entraînement de son club. À contre-cœur, peut-être. En tout cas, arrivé le premier au volant de sa voiture, accueilli par une multitude de photographes et de journalistes, Léo est rentré à la maison après 10 jours, donc dans l'œil du cyclone, d'une tempête qu'il avait lui-même provoquée. Vendredi, il avait enregistré un message d'abord résumé en ces deux mots expéditifs, c'est Queda, hein, il reste, 17e saison Blaugrana pour lui. Messieurs, avant qu'on écoute d'ailleurs un extrait de cette déclaration, est-ce que ça vous a surpris Marc Libra que ça arrive ça à Lionel Messi, je rentre dans le rang et qu'il le dise un peu confusément, un peu confus ou un peu triste devant la caméra.
On va dire un peu bébête sur sa situation. Franck, la semaine dernière, on en avait parlé dans cette émission. J'étais vraiment très surpris de le voir quitter le navire. Ça me paraissait difficile. Et Franck avait dit, mais rien qu'avec cette fameuse cloche, on ne sait pas comment il va pouvoir partir. Et puis en fait, il s'est rendu compte que peut-être ça a été très mal mené par son papa qui est agent. Et puis il s'est dit, bah, il vaut mieux que je rentre à la maison quoi qu'il arrive. Après, je pense qu'au mois de décembre ou janvier, on va parler différemment de Messi parce qu'il sera peut-être libre et il pourra faire ce qu'il veut ou pas. Donc on verra. Mais oui, c'est plus rien ne m'étonne dans le football. On est capable de voir, on a vu des incohérences, des joueurs qui arrivent en claquettes, des mecs qui disent qu'ils partent, mais le lendemain ils adorent le club. Donc, vous savez, je suis plus surpris, quoi. Mais après, ça vient de Messi. On est habitué à le voir faire des coups d'esbrouf pour pouvoir se faire un petit peu augmenter, pour gagner 1 an, 2 ans. Et là, c'était assez surprenant. Mais bon, alors, il savait pas lire. Peut-être cette clause, il n'était pas au courant, alors que tout le monde était au courant. Donc, c'est assez surprenant.
Lui ou ses hommes de pouvoir, Franck Simon.
Ouais. Ben oui, il reste. On est même pas surpris. Ça ressemble effectivement à une fâcherie une fâcherie adolescente, quoi. Mais on a bien compris que voilà, il va aller au bout de ce contrat.
Mais de la part du meilleur joueur du monde, c'est un scénario un peu étonnant.
Bah, ça fait.
S'il dit qu'il part un jour, c'est pour de vrai.
Bah dans sa tête, ça a l'air d'être vrai, et pour son entourage aussi. Mais encore une fois, le football, c'est pas, si vous voulez, c'est pas, on n'est pas sur Football Manager où on peut transférer. Et encore, même sur ces choses-là, vous pouvez pas transférer comme vous voulez. Mais c'est pas comme ça. C'est le foot business aujourd'hui. Tu peux pas te libérer d'un contrat parce que, entre guillemets, pour service rendu, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et il partira au moment où il devra partir. Donc on a bien compris effectivement qu'il va se passer des choses cet hiver pour préparer l'après. Mais ouais. Non, il doit assumer ce qu'il a. Il devra assumer dans les prochaines semaines et prochains mois la façon dont il a pu se comporter.
Oui,
mais on a vu. Mais ce qui est intéressant, sans déflorer trop cet aspect, c'est-à-dire que en France, on a déjà assisté un peu à ça avec Neymar, le cas Neymar, qui nous sert un peu de référence. Donc
oui,
tu peux
ça.
Te faire souffler
c'est
dans les bronches.
Sauf que Neymar, on était un peu moins surpris parce que par son entourage, ses fêtes, sa manière de vivre faisait que il
mais
fait moins
il
premier
et
classe.
Et
il n'avait pas passé 20 ans au PSG.
Certes,
Neymar.
Non mais
il était les supporters le haïssaient, les supporters ne haïssent pas Messi.
Non mais
Messi, c'est quand même l'histoire d'un énorme fiasco ce qui s'est passé. C'est le plus grand joueur du monde. Pour moi, c'est le plus grand joueur du monde. C'est quelqu'un qui a un entourage démentiel.
En tout cas, on dit être le meilleur joueur du monde.
Bah, avec Ronaldo, voilà. Mm-hmm. Après, on peut débattre de l'un ou l'autre, mais c'est l'un des meilleurs joueurs du monde.
Sur
le plus grand joueur du monde. C'est le joueur le mieux payé au monde. Donc, c'est aussi là-dessus, sous terme de contrat. Il a un entourage énorme, démentiel. Et personne n'a lu ce contrat. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est un raté épouvantable. Et aussi bien sa communication derrière, une interview, aussi bien la forme que le fond, parce que la forme, il dit qu'il reste, mais il dit pas, il est pas là pour renouer le contact avec le Barça,
ça.
Etc. Il a des mots très durs.
Ses angles.
Mmh. Et c'est pas possible de dire à ce point-là, je veux quitter, c'est fini avec Barcelone, je veux même partir à Manchester City. Son entourage a fait comprendre qu'il voulait, sa priorité c'est d'aller à City, de faire croire aux dirigeants de Manchester City qu'il allait rejoindre ce club-là. C'est incroyable d'aller aussi loin et de revenir en arrière d'une manière complètement hallucinante. Ouais. Quoi.
Alors, ce premier de classe, comme premier à l'entraînement, comment imaginer son retour aux côtés de ses camarades, même si le vestiaire est un peu dépeuplé parce que certains sont en sélection, ouais. voire malades écoutons ou réécoutons Lionel Messi avec cette grande lassitude dans la voix.
Cette saison a été très compliquée pour moi, aux entraînements, sur le terrain, dans le vestiaire.
Alors on va s'adresser d'abord à François David qui est au chevet permanent de Lionel Messi du côté de Barcelone. Bonjour François.
Bonjour Annie, je dirais que c'était un petit peu exagéré, mais effectivement, on a suivi un petit peu ce qui se passait, oui.
Oui, vous faites partie de cet entourage, justement. François, quand on entend qu'il a ce ton, cette lassitude, cette espèce de confession qu'il a eue vendredi, on se pose beaucoup de questions. D'abord, est-ce que à Barcelone, on en sait un petit peu plus autour de ce faux départ, de savoir s'il le préparait finalement vraiment depuis longtemps, s'il en avait peut-être parler à des gens très proches de son entourage qui jusqu'à présent ne disaient rien.
Écoutez, tout le monde était quand même surpris qu'ils disent que ça fait quand même un an qu'ils demandent à Josep Maria Bartomeu, donc le président du FC Barcelone, une personne qu'il déteste.
Oui, évidemment, là, il joue sur ma parole contre la sienne, hein, on a bien compris.
Voilà, sauf que la presse ici à Barcelone est quand même super puissante, elle sait tout, pratiquement tout. Et jamais on a vu vent que depuis un an, Messi voulait partir. On savait qu'il y avait une clause, effectivement, qu'il devait activer avant le 10 juin. Qu'il autorisait à partir, mais pas depuis un an. Ce qu'il dit, souffri mucho, j'ai beaucoup souffert, je crois que c'est lié, à la relation qu'il a avec Bartomeu, avec l'ancien directeur sportif français Eric Abidal, et tous ses échecs répétés en Ligue des Champions. C'est ça, en fait, qu'il a vraiment tué, parce que dans ses meilleures années, c'est-à-dire quand il avait entre 28 et 32 ans, maintenant il en a 33, il a gagné qu'une seule Ligue des Champions. Et c'est ça qui lui a fait du mal, pendant que Cristiano Ronaldo, lui, en gagnait 3 de suite avec le Real Madrid.
Comment ne va-t-il pas souffrir alors encore ces 10 prochains mois? Sur qui va-t-il s'appuyer? C'est qui ses copains?
Ses copains, déjà, il y en a un qui va partir, c'est Luis Suarez, qui est proche d'un départ à la Juventus, pour remplacer Gonzalo Higuaín. Ses copains, ça va être ceux un petit peu toujours, Gérard Piqué, même s'il en reste plus beaucoup, hein, Sergio Busquets, Jordi Alba, la garde rapprochée. Maintenant, on va voir surtout ses relations avec Ronald Koeman. C'est ça qui va être, je pense, le point déterminant de la bonne saison ou non, et d'une de Messi, même si je pense que moi, il va faire une grande saison, et surtout du Barça.
Vis-à-vis des supporters, les cools, les saints comme on les appelle du côté de Barcelone, est-ce que il y en a qui finalement ont pensé que c'était un peu une trahison justement cette espèce de faux départ?
Bah, tout à fait. Moi, je vous invite à suivre les dernières publications de Lionel Messi sur son compte Instagram, où il y a des photos, évidemment, bah, tout le monde connaît Instagram. Mais ces dernières photos, les commentaires n'ont rien à voir avec la photo, et on le traite de tout, on le traite de traître, de pesetero, c'est-à-dire de mercenaire, qu'il a manqué de rester au club, qu'il lui a tout donné. Maintenant, la grande majorité ici à Barcelone pense que finalement Messi a voulu taper du poing sur la table. Effectivement, ils auraient été très déçus qu'il parte, mais c'était peut-être un mal pour un bien pour mettre Josep Maria Bartomeu, je crois un des pires présidents de l'histoire du FC Barcelone, sous pression avant les élections en mars prochain. Et puis surtout, bah, qui reconnaissait que Messi avait tout donné au Barça, que finalement le Barça actuellement était aussi grand grâce à Messi, grâce à l'aura de Messi, grâce au but de Messi. Mm-hmm. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club.
Oui.
Il avait explosé tous les records.
Oui. On est surpris finalement de ce développement, hein, Bruno, de cette manière finalement un peu pathétique de dernière année peut-être, qui sait, on ne sait pas encore, mais.
Ben ouais, après je sais qu'il y a beaucoup aussi de supporters qui du Barça qui s'est fait un peu de la raison que Messi partait, et que peut-être c'était aussi une bonne chose pour le Barça de voir Messi partir, parce que le club doit reconstruire, le club a pas beaucoup de moyens, il a beaucoup de problèmes financiers, et que Messi son salaire coûte énormément d'argent, que son transfert, même sans la clause, parce qu'une clause, Ronaldo avait une clause d'un milliard, il est parti pour un peu plus de 100 millions à la Juve. Une clause, ça veut rien dire, ça se négocie. Donc Messi, s'il est vraiment il avait envie de partir, il pouvait aller au bras de fer et Bartomeu et partir pour 150, 200 millions, je pense qu'il y avait des clubs possibles. Mais c'est surtout que voilà, il va falloir entamer une reconstruction avec quelqu'un qui voulait partir, mais finalement qui reste.
Mais
et
qui
puis
partira.
Surtout une équipe à reconstruire, parce qu'il faut la reconstruire, cette équipe.
Ça, on va y venir,
et là, il y a peu de départs qui vont apporter l'argent.
Franck, sur ce côté, se remotiver, il est suffisamment professionnel pour compter sur lui, faire table rase et faire une dernière super saison, comme nous promet François David.
Je pense que effectivement, comme le disait tout à l'heure François, il doit être forcément très revanchard par rapport à ce qui s'est passé, pas par rapport à lui-même, parce que il a déjà tout démontré depuis bien longtemps avec ce club qui lui colle tellement à la peau. Après, moi, je reste malgré tout, je fais confiance au talent du joueur et peut-être aussi à une transformation de ce garçon sur le plan tactique avec Koeman, une adaptation plus exactement, mais je reste choqué par le côté, si vous voulez, télé-réalité de cette affaire.
Ouais.
Voilà, c'est ça qui me ça qui me dépasse. On a l'impression d'avoir affaire à une midinette là. Qui fait un caprice et ça lui ressemble pas vraiment. C'est ce qu'on disait un petit peu avant le début de l'émission avec Bruno notamment. C'est-à-dire que le vrai Messi, on le connaît pas finalement. Le vrai Messi, le Messi d'en dehors du terrain. On ne connaît pas, on a un peu le visage.
Il parle jamais.
Il s'exprime jamais.
On a l'impression du premier de classe, discret.
C'est ça. Alors qu'il y a eu quand même des phrases. Ouais. François pourrait revenir dessus, mais phrases d'une très grande violence.
Et justement,
au niveau de la critique.
On y va vers une autre des phrases très violentes, François. Hein, on va l'écouter ensemble. Ouais. C'est évidemment celle où il brocarde toute la direction du Barça.
J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers, mais chaque année, en fait, on bricole.
Voilà, chaque année, ça bricole, on fait les fiers, et surtout, depuis 2015, c'est vrai qu'au point de vue européen, parce que, attention, ils continuent à gagner la Liga régulièrement, mais au point de vue européen, c'est ce qui, on le sait, fait, motive les très grands joueurs. Justement, il ne se passe plus grand-chose. François, on se souvient que Bartomeu, ou le président, avait dit « Si Messi reste, moi je m'en vais ». Évidemment, cette phrase-là, elle est plus valable.
Il l'a pas dit officiellement. Il a laissé filtrer ça au cours de son entourage. Alors après, ça faisait partie de
du poker menteur,
exactement, du poker menteur qu'il y avait entre les deux. Évidemment que Bartomeu, il va partir. De toute façon, il va partir dans 6-7-8 mois là pour les élections.
Il y a une assemblée générale au mois d'octobre, hein, avec les socios qui promet d'être animé.
Il y a une motion de censure qui est toujours dans l'air. Maintenant, il fallait qu'il récolte plus de 16 000 signatures sans signature électronique. Donc, il fallait se dépasser sur les gens quand le Covid, c'était compliqué. Donc, je pense qu'il va sauver sa peau jusqu'en mars prochain. Par contre, après, ce sera fini. Ce sera soit Victor Font qui vient avec Xavi ou soit l'ancien président Joan Laporta qui va revenir.
Ouais.
Et peut-être, eux deux pourront peut-être combattre Messi de rester une saison de plus ou deux au FC Barcelone. Maintenant, effectivement, il a raison. Le grand tournant pour moi du Barça ces dernières années, c'est Neymar.
Oui, 2017.
Était meurtrier parce que après il récupère un Philippe Coutinho qui s'est pas trop adapté. On va voir s'il a, il est de retour. On va voir s'il va s'adapter. Il y a Ousmane Dembélé qui a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Mm-hmm. Et tous les ans, ça a été ça. Finalement, une des meilleures recrues du FC Barcelone, c'est Clément Lenglet. Donc c'est dire que le recrutement ces dernières années a été raté et tout ça ils l'ont payé en Ligue des Champions. Moi je peux le comprendre Messi parce que c'est le meilleur et on l'entourait de joueurs qui finalement n'avaient peut-être pas le niveau.
Oui, Marc, quand on est joueur professionnel, on arrive comme ça à se remotiver un peu contre vents et marées, je dirais, c'est-à-dire un peu contre les copains qu'on n'a plus dans le vestiaire et d'autres avec qui on n'a pas grand-chose à voir, contre une direction qu'on n'a plus trop envie de croiser dans les couloirs.
Bon, la direction, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas obligé de les croiser après. Par rapport aux joueurs, quand on a Messi qui reste dans un vestiaire, on sait que quoi qu'il arrive, même si on l'aime pas, c'est le patron. Mm-hmm. Donc on va pas pouvoir dire ah mais ce que tu as dit c'est pas bien. Tu comprends, ouais, c'est après deux matchs, ils vont scander son nom, mais si, ça va. Non, mais on sait ce qui va se passer.
Mais il y a plus d'histoire de Neymar dans le.
Ouais, enfin, mais même elle, s'il y en a 3 ou 4 000, ils vont. Non, mais rappelez-vous l'histoire de Neymar, ce qui s'est passé, ce qu'ils y ont promis, les insultes, ici et là. 3 matchs, il a mis un ciseau, il a mis un but du talon, et puis c'est reparti comme si de rien. Donc, ça sera
pas. C'est la magie des joueurs.
Maintenant, maintenant, ce qui est sûr, c'est que lui, au plus profond de lui, depuis 2015, de ne rien gagner, ça doit l'arracher. Pour ce genre de joueur qui est la référence, qui fait partie pour moi aussi, Messi ou Ronaldo. De voir.
Il s'ennuie les deux. Finalement, de pas jouer et de pas atteindre les top niveaux qu'il aimerait.
Je pense que c'est un ennui mortel, ouais, pour lui de voir ce qui se passe sur des demi-finales, sur des finales des champions et que lui est à la maison dans le canapé et puis il regarde. C'est depuis 2010 à 2015, ils se battent et puis c'est toujours en finale, ça arrive en finale avec, il y a cette confrontation Ronaldo. Alors Ronaldo qui est parti aussi, qui est dans un autre championnat peut-être, mais ça doit l'arracher directement. Quand il dit les dirigeants ont fait n'importe quoi, c'est que lui il a un plan. Xavi, Iniesta sont partis, on n'a pas remplacé depuis 2015, ça correspond aussi au dernier titre et il se passe rien depuis. Et lui, je pense qu'après 5 ans, Conviano, c'est le meilleur joueur du monde. Il peut se permettre, je pense, de dire ce genre de choses.
Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas non plus le décharger de ses responsabilités. Dans le fiasco du Barça depuis quelques années, il a sa responsabilité. On ne peut pas dire que le Barça...
Tu peux pas jouer seul.
On peut pas dire que le Barça est extraordinaire quand Messi est extraordinaire et quand le Barça perd, c'est pas la faute de Messi. C'est forcément un peu la faute de... Faut regarder ce que Messi a fait avec l'Argentine aussi. En 2016, après l'échec en Copa América, il décide de partir, il annonce sa retraite internationale. Ça fait un bruit pas possible. 6 semaines après, il revient sur sa décision. Là, il fait exactement la même chose avec le Barça. Il y a aussi l'importance du capitaine Messi. Pas que le joueur, mais le capitaine Messi. C'est lui qui porte le brassard. Et à un moment donné, il ne porte pas ses équipes vers la victoire. Il y a ça aussi. Et là, par exemple, aujourd'hui, il va revenir au Barça. C'est quand même le seul mec qui fait une interview pour renouer son amour avec le Barça, je reste, machin, et qui dans l'interview, dans le cœur de l'interview, défonce tout le monde au sein de la direction, au sein de la politique qui a été faite sur les dernières saisons, alors que c'est lui qui est capitaine. Comment il va revenir en tant que capitaine au Barça cette saison? Moi, j'y crois pas.
Au niveau des joueurs, mais les joueurs sont au courant que la direction est mauvaise. Quand t'es joueur, tu dis que ta direction ne tient pas la route.
C'est pas que ça, c'est un ensemble.
Parce que les autres joueurs.
C'est trop facile de dire que c'est la direction. C'est trop facile.
Ah ben,
sur le terrain, qui court pas sur le terrain?
Non, mais François peut le dire s'il n'y a pas Messi cette année.
Le match du Bayern, faut regarder le match du Bayern. À partir de la 65e minute, Messi arrête de courir.
C'est normal.
Il ne défend plus.
Comme la plupart des joueurs.
Il ne défend plus. C'est pas normal. Mais c'est quelqu'un qui démissionne à chaque fois qu'il y a des choses qui va à l'encontre de la réussite de son équipe, il démissionne, il arrête, il s'en va. À chaque fois, c'est la même chose. Il a aussi le droit de se révolter, mais sur le terrain, de révolter ses coéquipiers. Pourquoi en tant que capitaine, il ne révolte pas ses coéquipiers?
Quand tu vois que derrière, il s'amuse à la baballe, alors que tu sais que le Bayern va te presser très haut. Mais quand tu es Messi, tu ne peux pas être derrière. Donc, ils te le font une fois, deux fois, Ter Stegen. Mais non, Messi, c'est que ça. Messi, pour moi, c'est que ça.
Franck.
C'est-à-dire que comment les deux choses, les deux idées se défendent, je comprends ce que veut dire Bruno, je le comprends bien. Mais après, en même temps, si t'es pas super bien entouré, effectivement, que les mecs, derrière, ils font le grand n'importe quoi, et que c'est un chantier, moi, je peux comprendre la résignation de ce type. Et, pendant la rencontre, le fameux 8-2, là, j'ai pas mal dégainé en disant, ouais, Ter Stegen, il fait du grand n'importe quoi, mais en vérité, c'est vrai qu'il a pas été extraordinaire. Mais lui, jusqu'au bout, il a assumé, il a pris des buts très bêtes, mais il a essayé de faire en sorte qu'il ne soit pas 10. À un moment donné, c'est vrai que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le petit père Messi? Tu crois qu'il va revenir défendre dans la surface de réparation?
Oui, ce qu'il fait pas
d'habitude.
Il peut aussi rameuter ses coéquipiers.
Le ressort est cassé
depuis longtemps.
Tu peux pas réagir. C'est fini peut-être à ce niveau-là.
Il a su le faire avant. Il y a eu des matchs où il a su le faire, où les fameuses remontadas, on va pas revenir dessus, où là, il a su trouver justement
non,
les
c'est,
lieux.
C'est, ah, je suis pas d'accord.
La remontada, tout le monde disait que c'était Neymar. Neymar justement.
C'est Neymar ce soir-là qui rameute tout le monde.
Il fait partie du tout. Il fait pas partie d'un tout et d'une équipe. Là, il y a plus d'équipe.
Et on revient
avec la sélection argentine.
Et on revient à Neymar et à cet été meurtrier, comme nous dit François. François, une dernière question. Alors, comment Koeman là va faire? Est-ce qu'il va réussir à recréer une dynamique? Il est là pour ça. Il a peut-être qu'un an. Il a une équipe avec quand même on a l'impression d'un surpoids du côté du secteur offensif. Hein. Messi, Griezmann, Dembélé, Fati, Coutinho, peut-être Depay.
Trincao, le nouveau.
Ouais. Oui, qui vient aussi du Portugal. Bon, les jeunes comme Ricky Puig sur lequel il peut peut-être s'appuyer. Est-ce que c'est le retour du tiki-taka? C'est tellement admiré, fut un temps.
Le tiki-taka, c'était pas vraiment l'école de Cruyff. Hein. Bon, évidemment, il y avait beaucoup de possession de balles et de balles, mais c'est Guardiola vraiment qui l'avait
peaufiné.
Sublimé. Donc, on peut s'attendre à peut-être un changement de système. La presse parle. Là, ils vont jouer leur premier match amical samedi. Fini le 4-3-3, 5-5 au Barça ou le 3-4-3 avec 3 centraux. Passer en 4-2-3 hein, avec trois lignes de milieu offensif et un avant-centre. Alors Messi, il faudra trouver effectivement une place, ça peut être derrière l'attaquant, ça peut être sur un côté. Mais effectivement, oui, il va y avoir beaucoup de joueurs offensifs. On parle en plus peut-être de Memphis Depay qui pourrait qui est le capitaine de la sélection de Hollande, un homme, un bras droit pour Ronald Koeman. Donc on va voir maintenant, on va voir si Joseph Maria Bartomeu, qui pour moi je vous confirme, hein, c'est des pires présidents de l'histoire du Barça, on va voir s'il trouve des solutions souvent pour essayer d'obliger Ousmane Dembélé, par exemple, à être prêté un an, à trouver d'autres solutions pour les joueurs. Mais Ronald Koeman, effectivement, il va devoir monter une équipe avec peu de renforts. Bruno le disait, oui, il n'y a pas d'argent, donc ils vont devoir se débrouiller et trouver des solutions. Mais en tout cas, on a hâte de voir le premier match amical samedi. Ouais.
Bon, mais on vous rappellera surtout l'entrée en compétition du Barça et du Real hein, pour ce qui est de la Liga. Ils ont obtenu de ne pas rentrer eux le week-end prochain, même si on aura un Grenade Athletic Bilbao et il y aura d'autres matchs. Je pense que c'est Elche hein, le premier visiteur au Camp Nou pour ce qui est du Barça. Ça sera ça.
Ça va être c'est le promu qui a 2 ans est en troisième division. C'est le meilleur départ possible pour le Barça.
On verra ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci François David. À très bientôt. Hein. Messi nous intéresse
à très
toujours.
Vite. Merci Annie.
Jorginho per Spinazzola di prima, splendido, su Insigne, all'indietro il tocco, c'è Immobile in area di rigore, il cross in mezzo e la rete e siamo avanti noi e Nicolò Barella mette il pallone in porta al minuto 45.
Et voilà un but en fin de première mi-temps et on maintient le score. Une jolie victoire, en tout cas pour la squadra azzurra, grâce à ce but de Nicolò Barella. Donc les Italiens ont gagné leur rencontre à Amsterdam, donc face aux Pays-Bas. Un match qui succède à un nul hein, obtenu, alors là c'était à domicile face à la Bosnie. En tout cas, ça a plutôt rassuré apparemment les supporters italiens, d'après ce qu'on nous disait, notamment notre correspondant Matteo Cioffi. Et puis les joueurs, eux aussi, comme Danilo D'Ambrosio.
Nico, ormai è una certezza.
Barella est désormais une valeur sûre en équipe nationale, comme à l'Inter d'ailleurs. Ça fait 2 ans qu'on connaît son potentiel. Même s'il est jeune, il a de la personnalité et il sait gérer les différents temps forts ou faibles d'une partie. Et que dire du retour de Chiellini? Il a d'énormes qualités morales. C'est une référence pour l'Italie et j'espère qu'il y jouera encore longtemps.
Speriamo che giochi ancora per molti anni ancora.
Et voilà les cadres, hein, ceux qui tiennent la défense, Bonucci et Chiellini, et puis après le savant mélange avec les plus jeunes, Barella, Donnarumma même, ou Zaniolo, le pauvre qui s'est blessé encore hier, ou encore les habitués, Insigne, Immobile, Jorginho. Franck Simon, cette Italie, vous la trouvez séduisante?
Celle d'hier soir, oui.
Oui.
Oui, oui, celle d'hier soir.
Je
oui.
Je comprends. Donc pas celle face à la Bosnie, c'est
non,
ça.
Non, c'est ça. Mon inquiétude, c'était plus.
Non, mais eux aussi, on va dire que c'était
derrière,
leur match de rentrée face à la Bosnie, et là, ils commencent à retrouver un peu des.
Ouais, mais c'était voilà, j'ai trouvé de la fluidité. Mm-hmm. J'ai trouvé une équipe plutôt équilibrée. Ça, c'est important, l'équilibre entre les lignes avec un couloir. Je regardais, c'est un couloir interiste en fait, hein, entre D'Ambrosio, Barella et Pisagnolo.
Oui.
Bon, l'Inter qui a fait une belle campagne européenne aussi, donc. Ça peut aussi s'expliquer. J'ai bien aimé ce que proposait l'équipe de Mancini, quoi, en fait. J'étais inquiet tous ces derniers mois, évidemment. Et là, hier, en fait, le seul truc qui m'a inquiété, c'était Donnarumma. Voilà, où je l'ai pas
le
trouvé.
Le gardien de but.
Ouais, je l'ai pas trouvé super à l'aise. J'ai vu des fautes de main inhabituelles et tout. En revanche, dans les autres secteurs, une équipe, qui était plaisante à voir jouer face à une équipe en face où je pense qu'il y avait aussi des envies, mais qui s'est fait contrer. Ça n'a pas été un match fermé. C'était un match avec beaucoup d'occasions, très riche. Je pense
beaucoup d'envie.
Ouais, personne ne s'est ennuyé dans ce match, hein, je pense.
Bruno Constant.
Ouais, c'est une équipe, on est en train de redécouvrir que Roberto Mancini est en fait un très très bon entraîneur. Il était passé, moi je me souviens, à Manchester City, il avait été champion en 2012 avec un football léché comme ça, très offensif. Et ce qu'il fait depuis qu'il a repris cette sélection italienne, je trouve c'est très séduisant,
oui,
très prometteur.
Il y a quelque chose à vraiment rebâtir.
C'est une vraie reconstruction. Quand on parle de reconstruction, c'est le cas. Et il est en train de montrer qu'en deux ans, il est capable de reconstruire une équipe, mais surtout de la faire jouer de manière offensive. Il a un peu changé la manière de penser du football italien, qui est beaucoup plus offensif depuis quelques années. Mais en mettant ce milieu de terrain, moi, qui me séduit beaucoup, Jorginho, Barella et Locatelli, c'est très bon. Après, le seul petit doute que j'ai, c'est devant. Même si Thierry Mobile est meilleur buteur européen sur la saison, moi, je trouve que ça manque encore de talent pour aller titiller vraiment les équipes du très haut dans les grandes compétitions. Mais voilà, il y a du mouvement, il y a de l'envie. Et voilà, quand on voit l'équipe de France en Suède, on s'ennuie fermement. Et quand on voit cette équipe italienne face sur le terrain des Pays-Bas, on est capable de jouer du beau football, en fait.
Et cette équipe italienne, en plus, elle avait raté la Coupe du Monde, on s'en souvient, pour le grand désespoir de cette nation. Mais par contre, là, elle est déjà qualifiée pour l'Euro. Et en fait, c'est ça, l'objectif de Mancini. Alors évidemment, il a un an de plus, comme tous les sélectionneurs, mais lui, il mettra encore plus de profit.
Il y a aussi, il faut expliquer que cette équipe-là, elle est sur 16 matchs invaincus. Ils ne perdent
deux
plus.
Deux ans, hein. Mais là, c'était la première fois on va dire qu'elle arrivait à obtenir un bon résultat contre une des grandes nations européennes.
Ouais, mais quand on a vécu quand on vit le problème, une non-qualification pour la Squadra Azzurra avec beaucoup de changements, des joueurs historiques qui disparaissent aussi, qui arrêtent, c'est toujours important. Et il faut pas oublier la période qu'on vient de vivre depuis 5-6 mois. Là, on tire à boulet rouge sur l'équipe de France, sur Griezmann, mais le contexte est pas évident. Pour moi, il y a une disparité énorme entre l'état physique des uns, des autres. Certains n'ont pas démarré, d'autres ont commencé, d'autres se sont arrêtés.
C'est pas depuis 5 mois, hein.
C'est pas grave. Il faut juste gagner. Donc, comment l'Italie, alors, face au premier match, c'était la Pologne, il me semble,
la Bosnie.
Bon, c'était pas jojo, mais bon, ça, c'est un petit nul, ça. Et puis, là, face aux Pays-Bas, alors qu'on annonce les Pays-Bas, mais c'est
en
le premier test.
Ouais.
Ils sont capables de faire la différence. Moi, j'aime bien Jorginho devant la défense. Il y a deux mastodontes qui sont là pour, je pense, tirer les oreilles quand ça va pas, à des gamins qui jouent sur les côtés. Il y a un côté interiste qui est super intéressant. Là, tous les joueurs jouent en Italie. Tous jouent en Italie, donc il y a
et bénéficient aussi de ce renouveau.
Il y a une forte identité avec ce qu'ils ont vécu en 2018. Ils ne veulent plus le vivre, et je trouve que c'est super intéressant. Et puis Mancini, comme dit, c'est pas n'importe quoi. Mais on oublie vite dans le football. Non, il est pas bon. Lui, il est pas bon. Et puis c'est très bien. Et je pense que avec cette génération, et puis il y a des jeunes qui vont sûrement arriver aussi, qui est plutôt intéressant. Donc moi, je pense que l'Italie, il va falloir compter sur eux.
On se souvient de lui, le titre de 2012, effectivement.
Mais ça casse les stéréotypes, et c'est ça qui c'est bien que Bruno les rappeler, parce qu'il y a toujours ce football stéréotype. Enfin, l'idée d'un football totalement fermé.
En 2012, on dit c'est mort. Il était nul, ça n'existe plus. Mais non, mais ça existe et il a fait ça. Donc, on le perd pas, ça.
Il propose quelque chose et effectivement, c'est.
C'est un travail de fond, il a le temps, quoi.
Puis on peut en faire un outsider solide pour le prochain championnat d'Europe, ça c'est une certitude, oui.
Ouais, mais je pense que évidemment ils doivent y penser beaucoup, les Italiens, histoire de se venger un peu du mauvais sort de 2018. Les Oranges n'ont pas réussi à arracher le match nul. Ils ont bien essayé en fin de partie et la défense italienne a bien résisté. En tout cas, écoutons, c'est les regrets de celui qui tout d'un coup jouait les attaquants, Virgil van Dijk.
La première période était très difficile sur le plan mental. Nous n'avons pas réussi à les mettre sous pression. Nous avions toujours un temps de retard. C'était très fatigant. Certains de nos joueurs revenaient tout juste de vacances et n'avaient pas disputé un match officiel depuis longtemps. Ils avaient du mal. Il est clair que notre première période était en dessous de notre niveau. Nous allons analyser tout ça, mais il n'y a pas de quoi paniquer.
Franck, on a eu peut-être aussi, parce que c'est Hollandais qui était finaliste de cette compétition. De la première édition. Voilà, exactement. On les voyait extrêmement intéressants, avec justement Depay qui se transforme toujours un peu sous ce maillot orange et tous les autres autour, les Van Dijk, les.
On les voyait plus beaux qu'ils
De Jong.
De Jong aussi, ouais.
Celui qui est parti à la Juventus, dont j'oublie le nom, De Ligt.
De Ligt.
toute cette équipe. En tout cas, on a l'impression que là, peut-être, ils accusent le coup, eux, d'avoir perdu Ronald Koeman, qui est parti au Barça.
Très certainement, parce que le nouveau venu, Ludwigus, il a fort à faire, effectivement. Là, l'héritage, il faut le gérer. Pas simple. Alors après, je trouve qu'encore une fois, mais c'est classique avec les Bataves, hop, on ouvre le parapluie.
Oui, ah, bah,
on était. Ah oui, mais c'est ça. Mais on n'était pas prêts, vous comprenez, par rapport à ces gens-là, etc. Bon, faut arrêter. Hein, ils en sont tous plus ou moins au même niveau. Mais le potentiel, la jeunesse, ça existe. Et il a, en revanche, là, il a raison, Van Dijk, en disant, ben, bon, effectivement, faut pas croire que c'est le vrai niveau de cette équipe-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'à un moment donné, ils sont totalement muselés, quoi.
Ouais.
Après, effectivement, il y a la seconde période où ils ont chahuté l'Italie. Mais on sait aussi que les Pays-Bas peuvent être au rendez-vous dans un dernier carré, bien sûr.
Bien sûr.
Bon, ils sont muselés parce que l'Italie a mis un système de jeu en place qui était bien rodé. Mais surtout, avec les Pays-Bas, j'ai l'impression d'entendre la même histoire chaque année. Non, mais attendez, mais là, vous allez voir ce qui va se passer. Mais il se passe, bouh, ça fait un flop. Non, mais c'est toujours pareil, Annie. Ah, mais là, vous allez voir. Mais Memphis, vous allez voir ce que ça. On va voir. C'est que quand il a envie, oui, des fois non, des fois oui. Si on me dit qu'aujourd'hui Memphis Depay, c'est la référence et Coman qui veut le récupérer au Barça.
Souvent, il nous a épaté avec cette équipe des Pays-Bas. Et même, il marquait à chaque fois, Jean, ces derniers temps.
Sur la scène européenne, ils ont fait quoi depuis, Annie?
Ils reviennent de loin.
Mais entre revenir de loin et gagner les titres, parce que chaque fois,
ils étaient troisième à la Coupe du Monde en 2014.
Vous rendre compte. Ah ouais.
Ils étaient troisième en 2014.
C'est énorme.
C'est l'histoire des Pays-Bas.
Et finaliste en 2010, quand même.
Exactement. C'est
sur le papier, les Pays-Bas, c'est extrêmement séduisant. Ils ont, là encore une fois, ils ont une équipe qui est magnifique. Enfin, ils ont une charnière centrale de Lierse Van Dijk, ça peut être une des meilleures au monde.
Mais ça fonctionne
jamais
ensemble.
Ils ont un terrain avec De Jong, Van de Beek, que j'adore, de Roon, qui est excellent avec l'Atalanta. Ils ont sur le papier une super équipe. Mais il va falloir qu'ils valident ça à l'Euro. Et ça, à l'Euro, ils vont être attendus. On les a vus à la Ligue des Nations. Ils ont montré qu'ils avaient du talent, qu'ils avaient du, franchement, il y avait des promesses.
La première Ligue des Nations.
Il faut le confirmer. Mais après, bon, quand même, le départ de Koeman, comme ça, en cours
c'est
de route,
c'est
terrible, c'est quand même terrible.
Ouais. Oui, alors que vraiment, il y avait un travail, on sentait.
C'est lui qui était en phase de reconstruction, avec beaucoup de jeunes, etc., qui avait trouvé son équipe.
C'est pas sûr que Ludwigus, effectivement, puisse poursuivre cette œuvre dans le rajeunissement et puis aussi dans le jeu proposé. Mais au-delà de ça, ce que disait Marc aussi, voilà, leur donner ce supplément qui leur manque, pas seulement bien jouer, mais gagner quelque chose, quoi.
En tout cas, dans ce groupe de Ligue des Nations, du coup, l'Italie est première, les Pays-Bas juste derrière avec la Pologne et dernière la Bosnie. Puis on va faire un petit clin d'œil, un petit déjà grand, on va dire, par la taille et par son talent.
For lett spiller om, altså. Merkelig passivt av det norske forsvaret. Og det er bra. Og så kommer Haaland! Og så renner målet inn i Belfast! Og Erling Braut hopper inn for Haaland! Stefan Johansen barter opp med en ny god ball, og her er Haaland gjennom! Og da er det bare et utfall!
Vous avez reconnu la langue pratiquée parce que
parfaitement. Je suis norvégien fluent sans problème.
Vous avez un grand petit alors, ou un petit grand.
Oui, un petit un grand jeune. Exactement. Il n'a que 20 ans.
On le connaît.
Il est très grand. Erling Haaland. Un doublé hier soir dans cette large victoire de la Norvège en Irlande du Nord. Elle a gagné par 5-1. Des Norvégiens emmenés donc par Erling Haaland.
Et Sarlotte.
Exactement, à qui il a fait une passe décisive à un moment, donc le doublé
super,
plus la passe
super
décisive.
Attaquant lui aussi.
Et du coup, Haaland a marqué son troisième but en 4 sélections dans cette équipe de Norvège. Il avait marqué juste avant contre l'Autriche, même s'ils avaient perdu en Autriche. Est-ce qu'il y a des surprises à attendre, Bruno Constant, de ce géant nordique?
Ah, de ce géant nordique de
Dalland. Il va porter la Norvège à l'Euro.
En c'est le Messi.
En tout cas, il est quand même, mais il est quand même extraordinaire. Alors là, certes, il y a la confrontation, l'adversité qui n'était pas là sur ce match-là, mais les buts qu'il met, ils sont fantastiques.
Ça fait peur. Hein.
Techniquement, il est très très fort. On met souvent sa vitesse, sa puissance en valeur, mais techniquement, les enroulés comme ça, demi-volés qu'il met ras du poteau, c'est exceptionnel. Moi, pour moi, ça va être l'attaquant de cette saison à venir. C'est clair, il est monstrueux. Moi, je trouve de plus en plus qu'il se rapproche d'un Ibrahimovic à sa manière de dominer ses adversaires. Aussi bien physiquement que dans la vitesse et aussi techniquement, un joueur de son gabarit aussi technique, c'est quand même très rare. Et franchement, il est exceptionnel.
Marc, vous, l'ancien buteur, comment le voyez-vous, ce buteur Haaland?
Non, mais c'est vrai qu'il est, il est capable de tout faire. On pense, moi, qui étais.
Il n'est pas encombré par son physique, c'est ça qui est étonnant.
C'est ça, moi qui faisais un 90, je pouvais être un petit peu embêté au démarrage. Lui, il n'est pas embêté au démarrage. Au niveau des pieds, techniquement, il est facile. Il se pose jamais de questions, il frappe de très loin, il frappe toujours juste, fort et juste. Il est, il y a un an, on le connaissait pas. Il y a un an, personne ne le connaissait. On a vu la progression.
Oui, en Ligue des Champions, où il avait beaucoup marqué avec Salzbourg à l'époque.
Il avait flambé, il démarrait à peine. Et on a vu l'évolution, Dortmund. Mais,
Face au PSG. Hein.
Même quand on a une faible opposition, il est capable de marquer des buts. Donc après, pour lui, pour un redémarrage, des grosses carcasses comme nous, c'est plus difficile de reprendre. Il nous faut un petit peu plus de temps qu'un gabarit plus petit. Mais quand il est, je revois le but face au PSG, la frappe. C'est très impressionnant. Il a rien calculé. Il les a laminés ce soir-là. Un gamin, il a mis la défense à mal à lui tout seul. Mmh. Alors, c'est un système de jeu, attention, qui est bien rodé. Retour, c'était un autre Hollande. Mais à l'aller, en tout cas, s'il est capable de faire ce genre de performance pour Dortmund, c'est magnifique. Mais en tout cas, on parlera de lui, à mon avis, encore pour longtemps.
Mmh. Alors, moi, comme disait Louis de Funès, il m'épate. Parce que, c'est incroyable, ce type, comme disait Marc, la carcasse. Moi, c'est ça qui m'impressionne.
Oui,
cette carcasse qui déplace avec une fluidité en même temps et des frappes incroyables pour les gardiens. Et hier, je me suis délecté. Hein. Pourtant, moi, je suis plutôt du côté de ceux qui portent les gants. Ouais. Et hier, je me suis délecté de ces frappes, ces enchaînements. Et j'aime beaucoup. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de Sorloth parce que je l'ai suivi lors du championnat de Turquie la saison dernière avec le Trabzonspor. Je trouve que c'est bien. Il est pas tout seul dans cette équipe. Il a aussi un autre bébé bien costaud, qui est plutôt collectif en plus dans son expression, parce que c'est ce qui se passait à Trabzon. Ouais. Il jouait aussi beaucoup avec les autres. C'était pas toujours que sur lui. Et la Norvège a des arguments. Enfin, on croyait que c'était terminé. Hein. Ils ont fait des apparitions de temps en temps comme ça. On les a vus en Coupe du Monde, mais il y a bien longtemps. Et puis, ils ont ces jeunes là.
C'est les tours jumelles devant. Hein. C'est une équipe qui peut poser des problèmes à des grandes équipes parce que il y a deux monstres devant.
Ça sera amusant.
Avec un peu de technique
et
aussi.
Et intéressant de suivre des joueurs qu'on aime découvrir et qu'on aime surtout apprécier.
And quite clearly, you can see it. It's Phil Foden from Manchester City and Mason Greenwood from Manchester United. Why this matters is that the England team here in Reykjavik have come with a particular set of exemptions to Iceland's fairly strict quarantine rules to do with the fact that they are professionals.
Un petit tour et puis s'en vont. Les deux jeunes, Phil Foden de Manchester City et Mason Greenwood de Manchester United, qui avaient joué pour la première fois pour la Free Lions, appelés pour la première fois, et c'était en Islande où ils étaient, eh bien ils ont été exclus de la sélection. Bruno
que s'est-il passé?
Ils avaient froid, Bruno, c'est ça Constant. Ils ont enfreint des mesures anti-coronavirus.
Oh. Décidément, ces Anglais, quand ils sont à l'étranger, c'est terrible. On a eu l'histoire à Harry Maguire en Grèce, à Mykonos.
Ils n'ont pas résisté au charme des Islandaises, ça?
Ben non, mais ils ont fait comme... c'est pas les seuls à l'avoir fait, mais ils ont attiré deux jeunes femmes dans leur chambre d'hôtel. Vous n'avez pas le droit, évidemment.
En ce moment, on est dans le bulle quand on est...
C'est d'autant plus par rapport au contexte, parce que ça, encore une fois, d'autres joueurs l'ont fait. C'est pas les premiers ni les derniers.
Mais ils avaient interdiction.
C'est surtout dans cette période de contexte où c'est grave, quoi. Ils peuvent mettre en péril aussi bien leur sélection par rapport au Covid que tout ça. Enfin, et puis surtout, c'est quand même les deux grandes pépites du football anglais.
Complètement. On en parle souvent depuis un an, deux ans maintenant. Mancuniens,
oui. Il y a beaucoup d'espoir sur ces deux joueurs-là qui peuvent porter cette équipe d'Angleterre. Et ils déçoivent sur cette attitude-là.
Pas contre le Danemark.
Oui, bon, bonjour, Marc. Bonsoir. Bonsoir, oui.
Marc, vous le joueur, vous qui avez
j'en étais sûr, vous avez
dit que ça existait, ça.
Raconte. Alors attention à tous les auditeurs, vous sentez la question d'Annie Gasnier. Allez-y. Annie, bonjour. Bonsoir, Annie, je vous écoute.
Est-ce que vous les comprenez,
ces deux joueurs? J'ai eu peur, Annie.
Non, je
les comprends très bien.
Témoignage.
Non, mais vous savez, ce qui est le plus impressionnant, Annie, c'est qu'on parle que du... Alors c'est très grave. Alors les deux, je crois que se sont excusés.
Oui, bien sûr.
Ils sont déjà excusés. Ah, mais oui, ce qui est grave, c'est qu'on nous dit ils ont rompu le protocole sanitaire. Attention, je veux bien. Non, mais c'est très grave ce qu'ils ont fait. C'est l'équipe nationale. Alors, pour avoir joué l'Angleterre en Écosse, c'est assez fréquent. Et les supporters anglais, je pense qu'ils en retiendront pas rigueur, non, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont fait pire que ça. Mais pire, croyez-moi. Mais ce qui est fou, c'est qu'on dit, ah non, mais c'est juste, ils ont rompu le protocole. Ouais, soyons gentils, je veux bien qu'il y ait le protocole, qu'il y ait le Covid, mais la chose la plus grave, c'est qu'ils sont en sélection.
Ils n'avaient pas le droit de se mélanger avec d'autres personnes.
Non, mais je veux bien, mais à un moment donné, voilà. Et si moi, j'ai vécu ce genre de choses par le passé, je me rappelle pas, en tout cas. Voilà. Je sais que votre pensée, vous me regardez comme ça.
Non, c'était pas ce que
je me rappelle pas très bien.
Parce qu'on avait pas envie d'être méchant avec eux. On avait plutôt envie de penser à la naïveté, à l'insouciance. Ils ont 20 ans, hein.
C'est pas de leur faute. Ils ont pas fait exprès.
Ouais, mais c'est quand même pas à faire, sérieusement.
Non, mais évidemment, pas à faire, dans ces moments.
Surtout Foden, qu'on met en avant énormément, encore plus.
Et qu'on protège.
C'est surtout qu'ils sont pas malins, parce qu'ils sont, c'est les footballeurs anglais, ils savent qu'en Angleterre, les joueurs anglais sont souvent piégés.
Là-bas, ils sont pas piégés.
Et là, c'est la presse islandaise,
Bruno. Il y en a eu pendant le confinement. Il y a pas mal de cas comme ça.
Apparemment, c'est les réseaux sociaux et les belles islandaises qui les ont piégées. Non, mais
donc c'est les belles islandaises.
Il y avait Björk.
J'en étais sûr.
On nous parlait d'Instagram tout à l'heure. C'était sur ce réseau social ou un autre, mais en tout cas
volcanique les islandaises.
Bon, en tout cas.
Ça s'est fait.
Finalement, Franck,
ça m'inspire beaucoup ce sujet. Franck, j'ai pas vécu ça.
Mais je pense que ça lui.
On en parlera après.
Bon, en tout cas, il joue contre le Danemark ce soir et peut-être que ça mettra pas en péril tout le travail de Southgate. Parlons toujours de foot anglais, mais plutôt de Chelsea, si vous voulez bien, Bruno Constant, notamment en pleine Revolution, comme chantaient les Beatles. Marina Granovskaya, qui est donc celle qui dirige le club maintenant, cette belle brune, puisque Roman Abramovich est toujours bloqué en dehors de l'Angleterre et beaucoup en Israël. Elle a fait un sacré marché là d'été. Alors il y avait
avec
des contrats.
Son cabas, elle a pris son cabas.
Il y avait des contrats. On se souvient de Hakim Ziyech. On avait presque oublié parce qu'il avait été acheté un an avant, pratiquement, ou six mois avant. Ziyech, le Marocain d'Amsterdam, qui va donc être chez les Blues l'année prochaine. Il y aura aussi Timo Werner. Il y aura Thiago Silva, Malang Sarr, le Sénégalais, Kai Havertz, et puis Ben Chilwell.
Ben Chilwell.
Français
anglais de
ça fait beaucoup de sous, ça, non?
Ça fait beaucoup de sous. Ça fait plus de 230 millions d'euros.
Franck Lampard, il doit sauter au plafond, là, mais l'entraîneur.
Alors, ça s'explique aussi. Hein. Il faut rappeler qu'ils n'ont pas dépensé d'argent sur toute l'année dernière parce qu'ils étaient interdits de recrutement. Il faut rappeler aussi qu'ils avaient fait beaucoup d'argent l'été dernier en vendant notamment Eden Hazard. Et à l'époque, on avait cru qu'Eden Hazard était vendu au Real 100 millions d'euros. Et en fait... C'est là où Granovskaya est une femme d'affaires, j'allais dire homme d'affaires. Vous voyez, une femme d'affaires dans le football, il y en a. Et c'est là, et elle est très très douée. C'est qu'en fait, avec toutes les options qu'elle avait rajoutées, le transfert est monté à 160 millions d'euros.
Ah, c'est considérable.
Donc ça, c'est un pactole sur un joueur qui avait un an de contrat. C'est quand même assez exceptionnel.
Et qui n'a pas encore convaincu.
Ils avaient vendu à peu près pour 200 millions d'euros.
Il y avait un petit trésor de guerre, alors.
Oui, il y avait un petit trésor de guerre. Et puis voilà, ils ont bien dépensé, je trouve.
Aussi, là.
Comment?
William.
Alors ils sont débarrassés de joueurs comme Pedro, William, qui avaient quand même des gros salaires. C'est un club qui a toujours été très actif sur le marché des transferts. Régulièrement, ils ont fait les gros titres et faut se souvenir. D'ailleurs, ça fait penser un peu à la saison 2014-2015, la deuxième saison de Mourinho quand il reconstruit son équipe et qu'ils font un recrutement avec l'arrivée de Diego Costa et Cesc Fabregas et ils gagnent le titre dans la foulée. Donc on commence à penser un peu à ça du côté de Chelsea. Mais c'est surtout un club qui, depuis quelques années, depuis trois ans, on se posait des questions sur l'intérêt de Roman Abramovic, qui s'éloignait un tout petit peu de ce club, qui voulait plus trop investir dans ce club. Souvent, depuis 7 ans, il y avait une espèce d'équilibre en termes de dépenses et de d'achat. Et là, ils ont remis vraiment le coup de collier pour essayer de se rapprocher des clubs du sommet anglais. Il faut rappeler que depuis 3 ans, Chelsea a un peu dégringolé de l'échelle anglaise, qui sont souvent 25-30 points du champion. Quand Champions League, ils ont pris un 4-1 contre Barcelone en 2018, ils ont pris à 7-1 cette année face au Bayern Munich. Ouais. Donc ils se sont éloignés des sommets de l'Europe.
Marc, est-ce qu'un tel recrutement, ça veut dire qu'ils sont là pour être concurrents de Liverpool et de Manchester City ?
On s'attaque au podium. Après, c'est pas parce qu'il y a forcément des joueurs qui arrivent qui vont faire la différence. Je pense que Liverpool a toujours une avancée. City est toujours un petit peu devant. Mais il y a de quoi faire. C'est peut-être
d'essayer d'éviter. Il y a des jeunes là quand même parce que...
Il faut trouver l'équilibre.
Oui, non. Werner
c'est l'attaquant très prometteur. Mais non, est-ce qu'il va se faire? Bon, alors ça commence bien parce qu'il marque, des buts. Mais est-ce qu'il va être vraiment dans le bon tempo quand ça va vraiment commencer? Et avec cette période-là aujourd'hui, ce qu'on vit, on ne sait pas à quel niveau, à quel degré ils vont être. Enfin,
on ne sait même pas quel championnat on aura finalement. Quelles équipes?
C'est l'incertitude. Celui-là qui me dit aujourd'hui, non, mais je sais que Liverpool ou Manchester City. Et si on démarre et si ça s'arrête en février, si ça s'arrête en décembre, on fait quoi? Donc, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que eux, ils ont fait ce qu'il faut pour essayer de tenir tête. Mais je pense qu'il y a quand même du boulot pour Lampard parce que
peut-être pas dès cette saison alors.
Ah, ça me paraît difficile quand même, quoi. Ça me paraît difficile.
Franck Simon, supporter des Toffees qui viennent de s'acheter un petit James Rodriguez.
Ah oui, assez content, même si dans les caisses, il y a quand même de sacrés trous. Hein. Enfin, c'est considérable hein, ce qui manque. C'est un signal fort qu'on voit quand même Chelsea à la concurrence, à l'adversité. Donc ça, déjà, stratégiquement parlant, je trouve que évidemment c'est bien, c'est parfait de faire ça. Mais après, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas dire ce que ça va être.
Est-ce que vous avez confiance en Frank Lampard parce que c'est quoi sa deuxième saison?
Sa deuxième saison en Première Ligue.
Est-ce qu'il va réussir la fusion entre les petits gars qui sont révélés?
J'ai toujours en mémoire la voix d'Arsène Wenger qui nous disait quand tu rajoutes plus de 3 nouveaux joueurs par intersaison, c'est compliqué. Voilà, tu déséquilibres un peu l'équipe. Et là, tous les joueurs qui arrivent, c'est des joueurs qui vont rentrer dans le 11. Hein.
C'est pour jouer, c'est pas pour les laisser.
Il y en a 5 qui vont être, qui postulent pour être titulaires. Et l'autre question, c'est aussi, pour Lampard, il y avait une double pression, parce que c'était sa première saison l'année dernière, donc on pouvait lui pardonner l'irrégularité.
Il avait découvert aussi des joueurs, on s'en souvient.
C'est ça, avec des petits jeunes qui ont joué.
Tu dois garder un petit peu quand même.
Mais ça, ils vont revenir un petit peu à leur place, ces jeunes. Ils vont reprendre place sur le banc, ils vont jouer. Enfin, ça, c'est assez logique. Mais là, il a une double pression par rapport à Roman Abramovich, qui est exigeant en termes d'objectifs. Il veut que Chelsea soit sur le podium et bataille pour le titre et bataille pour la Ligue des Champions. Donc il y a une double pression. Mais l'interrogation à Chelsea, c'est aussi le déséquilibre défensif. C'est que le problème de Chelsea la saison dernière, c'était sa défense. Ils avaient encaissé 58 buts en 38 journées. C'est énorme. Je crois que c'était 10e défense de Première Ligue. C'est incroyable.
Ils ont recruté dans ce secteur quand même.
Mais pas beaucoup. Thiago Silva, il y a quand même des doutes sur sa capacité en Première Ligue où ça va beaucoup plus vite. Il y a le gardien qui a un vrai problème à Chelsea, Kepa, qui ne satisfait pas Lampard. Il voulait un nouveau gardien. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à l'avoir.
Il serait sur la piste d'Edouard Mendy, d'après ce qu'on
dit. Mais en doublure, pas en gardien numéro 1. Ils étaient sur Oblak de l'Atlético. C'est très compliqué, très cher. Et puis, ils ont pris Chilwell à gauche, qui est un excellent latéral, mais ils veulent un mieux défensif en plus. Donc, il y a encore des.
C'est pas terminé, quoi. T'es en train de nous dire que.
Mais c'est vraiment une reconstruction qui va prendre du temps. C'est énorme, 5-6 joueurs comme ça.
C'est rare quand même de voir des équipes qui justement font un peu table rase comme ça, même si elles ont été interdites de recrutement.
Ouais, City l'a fait quelques fois. Arsenal l'a fait quelques fois, mais c'était ce qu'on appelait du panic buy et c'était des achats dans toutes dernières heures du mercato et. Ils se renforçaient pas vraiment. Là, c'est vraiment des renforts et surtout tous les renforts sont arrivés pour l'instant avant l'ouverture du championnat. Donc, au niveau de l'efficacité, ils sont assez remarquables. Là, toute l'équipe va se préparer ensemble avant le début du championnat qui reprend ce week-end.
Oui, et ça reprend ce week-end. Alors, le premier match, c'est Fulham-Arsenal, avec Arsenal vainqueur des coupes cette saison et donc une équipe déjà bien préparée.
Qui recrute aussi beaucoup.
Oui. Et puis le point d'orgue, sans doute, et on y reviendra dans Radio Foot International d'ici samedi, parce que ça sera samedi à 18h30, mais c'est ce face-à-face entre Jürgen Klopp, les champions d'Angleterre et Liverpool, et Bielsa, le loco de Marseille, qui a fait monter Leeds de Championship à Première Ligue.
Je pense qu'on ne pouvait pas espérer plus belle affiche pour l'ouverture du championnat. Ces deux équipes qui jouent au foot, ces deux entraîneurs exceptionnels.
Deux équipes historiques en plus du football anglais.
Et le niveau, il va changer quand même. Première Chypre, Première Ligue, il y a un petit écart. Donc Bielsa, alors qu'il bosse.
C'est intéressant de voir Bielsa en Première Ligue.
Bielsa, on connaît le stratège. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous, on vous donne rendez-vous demain.